franceinter.fr.
Le 7 mars 2009, le télescope spatial Kepler de la NASA quittait la Terre pour être déposé en orbite autour du Soleil.
5, 4, 3, 2, engine start, 1, 0, and liftoff of the Delta II rocket with Kepler.
Pressure's looking good. Mach 1, vehicle's now going supersonic.
Voilà, aujourd'hui 9 ans, 13 jours et 2600 exoplanètes découvertes plus tard, eh bien la NASA annonce que les réserves de carburant de Kepler sont presque à sec. Le télescope spatial devrait pouvoir encore mener quelques observations avant de se figer à jamais dans l'espace, avant donc la fin de l'année. Et on revient sur ces 9 ans de révolution Kepler, Axel, avec notre invité.
Oui Mathieu, nous sommes avec Alain Lecavelier des Étangs, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien pour le CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris. Alors aujourd'hui, sur 4000 et quelques exoplanètes, planètes découvertes, 2600 ont été identifiées par Kepler. Difficile de ne pas parler de réussite.
Oui, c'est même plus qu'une réussite. C'est une révolution quasiment. On peut dire que pour la recherche des exoplanètes, il y a le monde avant Kepler, avant la mission Kepler, et le monde après la mission Kepler.
Alors qu'est-ce que ça a changé d'en découvrir autant ?
Ça a changé plusieurs choses. D'abord, ça a changé le nombre, comme vous venez d'indiquer. Pour les scientifiques, le nombre, ça permet de faire des statistiques.
On est à combien d'ailleurs aujourd'hui en exoplanètes à peu près ?
Presque 4000.
Oui, c'est ça.
Alors après, on peut discuter du nombre exact. Les compteurs sont un peu différents suivant qu'on compte certaines confirmations ou pas. Mais on est à presque 4000. Et sur ces 4000, il y a plus de 2600 qui ont été faites par Kepler. Donc ça vous donne l'ampleur de la découverte, la moisson de planètes apportée par cette mission spatiale de la NASA. Et donc, ça a permis de faire des statistiques, de comprendre les populations de planètes dont on imaginait l'existence avant et dont on est certain de l'existence maintenant. Et ça a permis aussi de découvrir des objets tout à fait extraordinaires dont on n'imaginait même pas l'existence avant.
Alors, parmi ces statistiques, une est intéressante, le pourcentage, la proportion de planètes qui ressemblent à la Terre. On peut aujourd'hui donner un chiffre ?
Alors, donner le chiffre exact, ce serait un peu ambitieux. C'est vrai, un des objectifs de cette mission Kepler. On pense qu'on est aux alentours de 25% de planètes qui ressembleraient peu ou prou à la Terre.
Ça veut
après,
dire quoi,
tout
ça
dépend.
Veut dire
quoi, voilà, c'est ça. Après, tout dépend. Qu'est-ce qu'on appelle une planète qui ressemble à la Terre ? Actuellement, ça veut dire une planète tellurique dans la zone habitable de son Soleil, c'est-à-dire à bonne distance de l'étoile pour qu'il puisse y avoir de l'eau liquide à la surface. Donc, toutes les conditions qu'il faut pour l'apparition de la vie.
Alors, on en parle comme si c'était déjà fini, mais il reste un peu du carburant. Combien de temps il va tenir encore, ce télescope ?
On ne le sait pas exactement, parce que sur les réservoirs, il n'y a pas de jauge. Ce n'est pas comme le réservoir de votre véhicule. On ne sait pas combien il en reste, mais en faisant quelques expériences, en le faisant bouger, on s'est rendu compte qu'il en restait moins. On sait aussi combien on a consommé, on sait combien il y en avait au départ. Il y avait un peu plus de 11 kilos quand même de carburant sur les 500 kilogrammes de la mission. Et donc, on pense que c'est quelques mois, guère plus. Si on a une bonne surprise, peut-être jusqu'à la fin de l'année, mais ce ne sera certainement pas jusque-là.
Pourquoi est-ce qu'il faut du carburant pour faire des observations ?
Il faut pointer un télescope. Alors, on n'a pas besoin de carburant pour tourner autour du Soleil. La mécanique céleste agit tout à fait comme la Terre n'a pas besoin de carburant pour tourner autour du Soleil. En revanche, le télescope, il faut le pointer vers les étoiles. Et pour pointer un instrument, il faut une force, il faut l'orienter, il faut une certaine énergie. Et ça, on utilise un carburant. Enfin, on utilise plusieurs instruments. C'est un processus à plusieurs étapes. Il y a des roues à réaction, qui, par réaction, comme on pousse sur la roue, ça fait pousser de l'autre sens. Donc, on utilise des roues à réaction. Mais de temps en temps, on a besoin plus que ça. On a besoin de carburant, de gaz qu'on fait échapper du système pour pousser comme une fusée.
Voilà. Qu'est-ce que vous mettez dedans ? C'est du sans-plomb 95, du diesel ?
C'est l'hydrazine, mais donc c'est un carburant tout à fait inoffensif.
Et du coup, si c'est vraiment les dernières observations, est-ce qu'il y a une excitation dans la communauté d'astrophysiciens pour savoir quoi profiter, sur quoi pointer avant que ça s'éteigne complètement ?
Question de Nadal Nakache.
En fait, c'est une question qu'on se pose depuis 2013, ouais. Quand il y a eu panne des deux roues à réaction et il a fallu utiliser un processus de pointage qui était très différent de la mission initiale. Donc à partir de 2013, on s'est posé les questions, avec un instrument dégradé, parce qu'actuellement il est en mode dégradé, qu'est-ce qu'on devait faire ? Et là, donc depuis 2013, on a quand même beaucoup réfléchi à cette question, et donc on sait pertinemment ce qu'on fait maintenant. On fait des champs d'étoiles pendant quelques mois, donc l'objectif c'est de découvrir des planètes qui tournent en quelques mois autour de leurs étoiles, mais qui tourne autour d'étoiles qui sont proches de nous, des étoiles brillantes. Donc on vise des étoiles brillantes pour préparer la suite, parce que ce qui est extraordinaire avec Kepler, c'est qu'il a découvert énormément de planètes. Mais après, il n'y a pas que la découverte. Après, il y a l'étude des objets individuels. Et les derniers mois qui se passent actuellement, on cherche des planètes qui transitent devant des étoiles brillantes pour en faire des études détaillées, par exemple détecter leurs atmosphères.
Pour vous, quel est le système planétaire le plus intéressant, le plus intrigant découvert par Kepler ?
Ah, il y en a beaucoup, mais si je pouvais en donner un, ça serait KIC 84 quelque chose. Enfin, je connais même plus le numéro, à vrai dire. Voilà, KIC 84 62 852. Voilà, j'ai mon antissage devant moi. On appelle aussi l'étoile de Tabby, voilà, pour faire plus court. C'était en 2015, je ne sais pas si vous en souvenez, en septembre 2015, on a eu une annonce dans tous les médias de la découverte d'une étoile mystérieuse, découverte par Kepler. Une étoile dont la brillance variait de façon tout à fait erratique et tout à fait surprenante. Et on n'avait pas d'explication. Et la seule explication qui avait émergé, c'est la présence d'une civilisation autour autour de cette étoile qui aurait créé des mégastructures dont on verrait la trace par les variations de la brillance de l'étoile. Depuis, on a beaucoup travaillé. J'ai en particulier travaillé sur cette étoile. Et on a découvert qu'en réalité, il s'agit plus probablement de comètes. Mais c'est tout à fait intéressant. Découvrir des exocomètes, des comètes en dehors du système solaire. Vous savez que les comètes sont probablement une des sources de l'origine de la source de l'eau sur la Terre. Peut-être l'origine des molécules complexes, des acides aminés, etc. Donc, découvrir des exocomètes autour d'un système extrasolaire, c'est évidemment tout à fait intéressant.
Bon, c'est moins bien qu'une civilisation quand même, hein, vous admettez.
Oui, c'est vrai, mais c'est moins... ça fait moins
C'est plus scientifique.
Voilà.
Et cet exemple, c'est une des nombreuses fois où Kepler nous a fait rêver la vie ailleurs, parce que c'est aussi grâce à lui qu'on parle d'exobiologie énormément aujourd'hui.
Oui, c'est pas le seul. Hein. Quand même, faut insister sur le fait que c'est pas le seul instrument qui a découvert des planètes, et il y a d'autres instruments qui font des découvertes tout à fait extraordinaires aussi. Mais là, avec la force de frappe médiatique de la NASA, on a pu voir qu'on était capable aujourd'hui de découvrir des planètes quasiment de type terrestre. Alors, on n'a pas découvert des sœurs jumelles de la Terre, on a plutôt découvert des cousines. Mais les sœurs jumelles, ce sont pour les prochaines missions, les missions TESS, Plateau, Kéops, etc.
Ben oui, alors pour terminer, qui sera le successeur, celui qui chassera énormément de planètes dans le futur ?
Alors, il y a plusieurs missions qui sont déjà dans les cartons ou même presque dans la soute de la fusée. La mission TESS hein, qui sera lancée dans le mois prochain, une nouvelle mission de la NASA pour découvrir des transits de planètes devant des étoiles brillantes, donc tout à fait intéressante. Il y a des missions européennes aussi, Kéops en 2019. Et puis, encore plus, peut-être le vrai, vrai successeur de Kepler, ce sera Plateau, une mission de l'Agence spatiale européenne, 2024. Et là, on va chercher des sœurs jumelles de la Terre qui passent devant des étoiles brillantes. Donc, on va savoir, enfin, est-ce que la Terre a une sœur jumelle, et on pourra l'étudier en détail, connaître les détails de son atmosphère et éventuellement détecter des signatures de la vie.
On ne soufflera donc pas les 10 bougies de Kepler ?
Peut-être.
Peut-être.
Oh, c'est mars, oui, de mars 2019, c'est peu probable.
Bon.
Mais ceci dit, 9 ans, c'est vraiment un énorme succès.
C'est vrai. Merci beaucoup Alain Le Cavelier des Étangs pour ces précisions. Et puis Axel, à demain.
À demain.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, un rat paralysé qui retrouve l'usage naturel de ses membres et l'équipe de Grégoire Courtine de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne qui espère les premiers essais sur l'homme pour la fin de l'année. Depuis 2009, le chercheur suisse peaufine sa technique qui consiste à stimuler chimiquement puis électriquement la moelle épinière pour la reconnecter au cerveau. La communication est ensuite entretenue par un entraînement intensif pour encourager les nerfs à repousser et à établir de nouvelles connexions. Cette méthode représente, Lionel Nakache, un véritable espoir pour les patients paraplégiques.
Oui, bien sûr, absolument. Et dans ces recherches extrêmement importantes sur le handicap par lésion médullaire, donc lésion de la moelle épinière, ça veut dire pour l'être humain, en général, c'est en général après un traumatisme, un accident de voiture sévère ou un coup du lapin aggravé, une section de la moelle épinière, les patients se retrouvent paraplégiques ou parfois même tétraplégiques. Et en gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a deux grandes approches qui sont utilisées par les différentes équipes. Celle de Grégoire Courtine, qui est une des grandes équipes, utilise cette approche qui vise même, qui est la plus ambitieuse, sans doute, à reconnecter les régions, notamment du cortex moteur avec la moelle épinière et in fine au muscle, donc réobtenir une commande directe via le système nerveux. L'autre approche qui est aussi utilisée par d'autres équipes consiste à utiliser le cortex moteur qui est préservé, à utiliser ce qu'on appelle les interfaces cerveau-machine, donc d'arriver à lire les intentions motrices qu'un sujet veut, par exemple bouger sa main, faire un geste, et transmettre ces informations à, par exemple, à des exosquelettes ou à des prothèses, donc commander ces prothèses par la pensée. Donc il y a deux approches principales, et celle-ci est très encourageante, celle qui vise à reconnecter par chimie, électricité et stimulation, entraînement des patients.
Voilà, avec l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. De nouvelles fouilles high-tech à Pompéi, la célèbre cité antique figée par les cendres du Vésuve en 79 de notre ère, et une promesse de belles découvertes, là aussi grâce à un arsenal de drones, de lasers et de reconstitution 3D. Les archéologues en charge d'une parcelle encore vierge du site de fouilles espèrent faire des découvertes inédites. Ces nouvelles fouilles qui commencent ce mois-ci vont être suivies de près compte tenu des négligences passées sur ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Enfin, des dessins de femmes scientifiques aux États-Unis. Des chercheurs ont demandé à des enfants et à des étudiants âgés entre 5 et 18 ans de dessiner des scientifiques. Après avoir récolté 20 800 images sur 5 ans, leur étude a permis de conclure que les représentations des femmes scientifiques réalisées par les enfants sont passées de 1 à 34% en 50 ans. Une large augmentation qui correspond notamment à l'accroissement du pourcentage de femmes occupant des postes dans la recherche. Une poussée surtout dans le domaine de la chimie où elle passe de 8 à 35%. Et puis à vos agendas, en hommage à Stephen Hawking, le cinéma Grand Action et l'Institut Henri Poincaré à Paris proposent ce samedi 24 mars à 11h le matin une projection spéciale du documentaire Brief History of Time, une plongée dans l'intimité de Stephen Hawking tournée en 1991 avec des interviews de ses proches et de ses collaborateurs. Cette séance exclusive sera suivie par les témoignages de la physicienne Nathalie Deruel, de Jean-Philippe Usan et de Cédric Villani. L'accès à la séance sur inscription est gratuite, mais il faut aller vous inscrire sur le site de l'Institut Poincaré.